C'est quoi? Ah ouais, je veux
Donc,
bien, s'il te plaît. Le la vaisselle est propre.
et à qui?
Ah mince, je crois que j'avais. Excuse-moi, je crois que j'avais désactivé.
C'est à qui dit béquet, bande de connards et tout? Ah, pardon,
Vous
excusez-moi.
écoutez
Serial Causeur.
Serial Causeur.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. La rentrée série a dévoilé une nouvelle plateforme, des nouvelles saisons, des nouvelles séries, mais aussi son lot de news en tout genre. On vous fait un tour d'horizon rapide à notre sauce avec Elodie,
Bonjour.
Maxime,
Salut.
Aki
Hello.
et je crois Marina.
Et tu crois bien, Tom? Bonjour.
Alors on va parler de l'événement, hein, Salto, enfin la plateforme des groupes TF1, France Télé, M6 ouvre ses portes, ça y est c'est disponible. Alors au programme de la série française par paquet et quelques séries US avec un prix de départ de 7 euros, premier mois offert évidemment, oui
6,99.
6,99 excusez-moi, premier mois
Oui.
offert donc on a testé. Elodie, toi tu étais à la conférence de presse carrément,
Alors, qui était
qui était
virtuellement, hein, mais
virtuel évidemment. Alors qu'est-ce que tu as retenu toi et est-ce que tu as testé?
alors, qu'est-ce que j'ai retenu de Salto? Eh bah, ils essayent pour leur lancement d'avoir en tout cas un catalogue bien fourni, du moins de ce qu'ils nous ont dit, parce que dans la réalité, c'est pas forcément ça. Je sais pas si tout le monde a un peu regardé ou pas,
Ouais.
mais voilà, apparemment, ils nous avaient promis quand même pas mal d'intégrales de séries, entre autres. Ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, je pense à du Grey's Anatomy ou enfin pas mal de séries qui sont justement sur les chaînes des groupes et qui ne sont pas disponibles en intégrale.
Bah c'est vrai, mais c'est pas terminé, Grey's Anatomy. Ah, en
Non, mais je veux
intégrale,
dire, il n'y a même pas de la saison
Oh,
1 à
Marina,
17, quoi.
cette réflexion de newbie.
De Stéphane. Moi, c'est
De
Stéphane,
mauvaise
tu vois,
foi.
tu vois.
Mauvaise foi. Je
Incroyable.
crois qu'il n'y a que les dernières ou la dernière saison ou
Il y a
les
la
dernières.
saison 15 en intégralité, ouais.
Voilà, mais enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous aviez compris. Moi, j'avais compris qu'on pourrait voir tout depuis la saison 1.
Oui, j'avais compris ça aussi.
Pareil pour les quotidiennes. Il n'y a que, je crois, les épisodes des 15 derniers jours. Bon, je pense que ça intéresse moins de monde, mais c'est du moins en tout cas ce qu'ils avaient dit qu'il y aurait tous les épisodes disponibles et c'est pas le cas.
C'est un replay classique en fait, c'est pas un replay en mode VO, enfin, plateforme streaming, mais c'est comme si c'était un replay qu'on avait déjà sur toutes les chaînes.
Ah ouais, d'accord.
Pour moi, c'est un bon complément à la télévision, on va dire. Parce que leur appel d'offres, c'est surtout pour ceux qui regardent la télévision, c'est d'avoir des programmes que tu regardes tous les jours, mais en avant-première. Que ce soit les quotidiennes, que ce soit L'amour est dans le pré, des télé-réalités. Donc bon, tu peux voir les épisodes 2 jours en avance. Pourquoi pas? Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même quelques séries inédites. Alors, des séries
Oui.
qui, par exemple, aux États-Unis sont déjà sorties depuis un moment, mais au moins c'est sympa de pouvoir les voir en France parce qu'elles sont disponibles nulle part ailleurs.
Ouais. C'est-à-dire qu'on croyait que ça allait être diffusé sur les chaînes et en fait c'est diffusé sur la plateforme quoi. Donc comme ça c'est réglé quoi. Ils peuvent mettre leur fond de catalogue ou les choses qu'ils diffuseront pas sur la plateforme.
Et du coup, c'est la seule plateforme pour le moment où il y a Buffy et Parks quand même, là en
Ouais.
intégralité.
Ouais, il y a
Là, tu...
Malcolm, il y a Seinfeld et tout. Enfin, au niveau des séries, alors peut-être pas actuelles, mais je trouve que pour les séries un peu nostalgiques et tout, ils ont fait des choix, pas trop mal
Alors,
du coup.
il y
Ouais.
a donc Parks and
Disponible.
Rec qui est enfin disponible
Oui.
en France. Donc, Aki est contente.
Oui, mais je pense que je vais les revoir là. J'ai pris le mois d'essai, je pense que je vais les regarder, effectivement.
Il est dans le top 10 hein, déjà de Salto. Mais en même temps, il n'y a que 10 séries. Donc,
C'est pas faux, honnêtement, c'est pas faux.
Par contre, il y a Ma famille d'abord en intégrale, qui est quand
Oh
même
mon
une
Dieu.
grosse sitcom. Enfin, voilà, ça fait partie d'une sitcom culte d'une génération. Peut-être pas la nôtre, mais. Et aussi, donc en inédit, il y a Evil, qui était notre coup de cœur de la
Hey.
saison
Ça oui.
dernière. Il y a Looking for Alaska, qui est la petite série d'Hulu, là, adaptée du bouquin de cette. Non, pas cet
John
été,
Green.
mais il y a quelques temps. C'était en début d'année, je crois, je sais plus. Il y a Buffy, il y a Desperate Housewives, il y a Seinfeld, quand même, que les gens vont pouvoir enfin découvrir.
Il y a aussi la série avec Kirsten Dunst, la
Ouais,
Becoming God.
Becoming God,
Et ça, c'est une exclue aussi. Je pense que je vais la regarder
ouais.
aussi, je ne l'ai pas vue.
Et il y a Downton Abbey, il y a Handmaid's Tale, Et normalement, le mois prochain, il y aura Nip Tuck. Alors, je ne sais pas si Prime va l'enlever du coup. Sinon, je crois qu'ils
Je
avaient
pense qu'ils vont
annoncé
ajouter
le.
pas mal de séries inédites, je pense,
Ouais.
au fur et à mesure.
Ouais.
Je pense là à leur lancement et puis au fur. Enfin, je sais pas quand exactement, mais ils ont promis plein de choses qui sont pas encore sur la plateforme. Donc,
A priori, ils auront la nouvelle saison de Manifest en US plus 24, d'après ce que j'avais vu.
comme Fargo.
Ouais. Après, bah, tout le reste, enfin, on voit plein de séries, mais en fait, pour avoir testé la plateforme, quand on voit le petit logo de la chaîne sur le visuel, c'est que c'est des replays en fait, donc on n'a pas la totalité de la saison. Donc c'est des replays de quelques épisodes qui ont été diffusés, comme par exemple 911 ou
Le
qu'est-ce qu'il y a
rookie.
encore? The Rookie, les choses comme ça, c'est vraiment les épisodes qui ont été diffusés dans la semaine. Après, je sais pas trop leur fenêtre de tir, si c'est tous les épisodes qui vont être dispo au fur et à mesure ou pas.
Ben j'espère. Là, ça
Ouais, mais
ajoute
du coup,
une valeur ajoutée au
alors,
replay.
parce que le prix d'appel, c'est 7,99, mais si tu as le multi-écran, ça passe à 10,
6,99.
6,99,
12.
ça passe à 10, ça passe à 11,99. Donc, je trouve ça quand même cher.
12,99.
À
Et non.
11,99. Donc, tu vois, c'est quand même cher. Moi, j'ai le
C'est très cher.
multi-écran pour Netflix. Alors,
Oui.
ça a augmenté Netflix, mais ça reste quand même moins cher. Et ils ont quand même, ou un Amazon Prime, enfin, tu vois, je trouve que moi, j'avais noté surtout les séries un peu nostalgiques et tout, qui étaient intéressantes. Et franchement, je me suis dit, bah, je vais peut-être le prendre, peut-être faire le mois d'essai et tout, je vais le faire, tu vois. Mais effectivement, quand tu compares à Amazon Prime, alors, ils n'ont peut-être pas les séries nostalgiques, quoique Amazon, ils ont quand même Buffy, ils ont quand même Dawson et tout, ils ont quand même plein de trucs. Tu dis, bah, l'offre, elle n'est pas si intéressante que ça au final, quand même.
Bah pour les fans de séries françaises, si, parce qu'ils ont quand même un énorme catalogue de séries françaises.
Oui, mais
Enfin, il y a un énorme catalogue, mais il n'y a pas tout non plus, hein.
est-ce que les fans des séries françaises vont aller se mettre sur une plateforme
Bah, c'est
pour
ça.
revoir des épisodes? Enfin, je suis pas sûr que le public de Julie Lescaut ou je ne sais
C'est
quoi
clair,
ait
c'est quand même
très
ça.
envie de revoir les épisodes autrement que par hasard à la télé.
Bah, ça sera
Ou
pour la
demain ou.
ménagère, mais enfin, je sais pas.
Mais non,
Élodie,
mais
toi qui
où?
es une future ménagère.
Mais oh!
Je ne sais pas comment je dois le prendre.
Mal,
Non,
mal, trop
mal,
mal, mal, ça
mal.
m'apprendra.
Non,
la
manière de le prendre.
stabilité de ton couple, voilà, voyons-le comme cela. Voilà.
En vrai, je trouve qu'en effet, il y a des séries françaises, mais tu vois, par exemple, il n'y a pas 10%. Il n'y a
Mais si,
pas.
il y a
Si, il y a
10%.
10%, ouais. Mais
Ah, c'est en
saison 2,
replay.
3 et 4. Il y a 2,
Ah
3,
bon?
4, mais pas la totalité de la 4. Ouais, j'ai vu, juste avant
Pardon.
d'enregistrer, j'ai
Oui,
regardé.
je viens de la regarder en
Ouais.
fait, donc oui.
Bon, bah, je m'excuse. Voilà,
Mais est-ce
j'avais.
que les gens vont revoir Demain nous appartient ou enfin tu
Ah, je
vois
sais
des
pas,
trucs aussi.
ça
C'est
me
clair.
viendrait pas à l'idée, quoi. Puis,
Après.
personnellement, j'aurais pas envie de payer 6,99 minimum pour me dire je vois un épisode 2 jours en avance, quoi.
Ouais,
mais
Donc, tant qu'à faire, je l'attends et je le regarde même en replay quand je le veux, quand ça sortira. Enfin, il n'y a pas d'intérêt de le voir. Ce genre de série, c'est vraiment le jour même de la diffusion. C'est-à-dire qu'ils sont à telle date dans la série aussi. Donc, bon, je veux dire qu'il y a quand tu es super fan, très bien, mais je trouve que c'est pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne vaut pas le coup de dépenser 7 euros pour ça, quoi.
je pense que ça va surtout pousser en fait à ne plus avoir de télé. Tout simplement parce qu'en fait tout ça c'est tout le replay dans une plateforme et t'as Molotov plus Salto et t'as toute la télé française qu'en gros c'est.
Il y a le direct aussi hein, sur Salto. Donc oui, littéralement, il n'y a pas que le replay, tu as la télé en direct aussi.
Ah
Ouais.
ouais? C'est
Bah,
ça
c'est
en fait.
ça qui est bizarre, c'est que les chaînes poussent cette plateforme
Ouais.
qui pourrait leur faire de l'ombre,
Ouais,
entre
c'est
guillemets.
pas faux, ouais, bah ouais.
Mais en même temps, est-ce que justement, parce qu'il y a la télé qui existe déjà et que les Français ont leurs habitudes et qu'il faut se dire que quand même c'est les vieux qui regardent la télévision, est-ce que franchement les gens vont s'abonner à Salto?
Mais en soi c'est pas totalement con pour ceux qui vont vouloir le remplacer de la télé, mais par contre c'est totalement con pour le public qui va vouloir des nouvelles séries et que ce soit un peu à la Netflix ou à la Amazon. Donc dans un sens ils sont pas bêtes d'avoir accès sur oui on veut être une deuxième télé
Digital, ouais.
plutôt qu'on veut être une plateforme parce que sinon ils se seraient fait bouffer je pense.
C'est bien d'être un complément à la télé, mais il faut pas qu'ils prennent la place, quoi. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont, d'ici la fin de l'année, leur catalogue va, j'espère,
C'est tout fait.
augmenter considérablement. Après, je trouve ça sympa de se dire, par exemple, ils étaient 10 et déjà disponibles sur Salto. Plusieurs semaines, voire mois, je ne sais pas, M6 ne l'a toujours pas annoncé, donc on ne sait pas quand ça sera diffusé sur la chaîne. Mais voilà, on peut dire que c'est un privilège pour les abonnés qui voudront voir la série. Et après, si ça ne marche pas sur M6, et ben ils pourront trouver l'excuse maintenant que c'est parce que ça a bien marché sur Salto.
Le problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Demain nous appartient. Je suis pas sûr qu'en fait, il s'adresse à un public qui a envie d'être des privilégiés, avoir des contenus en
Voilà.
avance.
C'est la question. Parce qu'on sait qu'on pourra le voir gratuitement à un moment donné.
Bah, c'est ça. Donc, je vois pas l'intérêt en avant-première, alors qu'en plus, il est déjà proposé sur la plupart des replays.
Bon, c'est un gros enregistreur, en fait, quoi.
Qui est derrière Salto? Enfin, qui est le patron finalement? C'est Pélisson, c'est ça? C'est le PDG de TF1?
C'est pas Thomas Follan?
Bah, lui, il est. Alors, attends. Membre
Directeur de
du
la publication,
comité,
Thomas
il est
Follan.
di direction de Salto Follin et Pélisson, c'est président. Ouais, donc. Et France Télé, c'est Daniel Attias, secrétaire général. Ouais, donc,
Sur un point de vue beaucoup plus terre à terre, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur l'interface et la charte graphique de Salto.
ouais, c'est
Le
sobre.
logo, déjà, je l'aime. Ouais, c'est sobre, mais c'est différent de tout ce qu'on a pu voir jusque-là, franchement. Même
Non,
si
non,
parfois,
l'argot de l'émission.
je trouve parfois que c'est un petit peu. Ça prête à confusion dans leur catégorie. Ça, j'avoue, je comprends pas trop leur catégorie, mais bon, ça, c'est parce que j'ai pas encore eu la curiosité de vraiment bien chercher, je pense, parcourir. Mais c'est très joli, hein, franchement.
Lors de la conférence de presse, Elodie, est-ce qu'ils ont dit, ils ont parlé un peu de leur replay hors Salto ou pas? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont abandonné le replay ou pas?
C'est-à-dire, tu veux dire pour le 6play, le MyTF1
Bah
et le
ouais,
France.tv?
le replay gratuit, quoi, en fait.
Ah bah non, ils abandonnent pas du tout, hein,
Ouais.
je pense. Hein. Je pense que le replay traditionnel tel qu'on le connaît des chaînes vont continuer à perdurer, que France Télé aura toujours France.tv avec leur série France.tv, genre Parlement, qu'il y aura toujours Slash, mais que les séries sont aussi... Enfin, je sais pas si elles seront tout de suite dispo sur Salto,
Ouais.
mais enfin, je pense pas qu'ils abandonnent ça. En tout cas, enfin, ils n'ont pas spécialement évoqué le point, mais c'est sûr que les replays restent. Et sur, alors, je peux parler pour 6play. Je sais que TF1 a récupéré quelques séries, genre Arclay Cœur à vivre pour MyTF1,
Là,
etc. Mais
ouais.
M6 aussi a pas mal de programmes, que ça soit de la série, genre beaucoup de telenovelas, télé-réalité américaine, du style Les Kardashians, tout ça, qui eux, ils ont exclusivement que sur le 6play. Et qu'apparemment, qui marche super bien en plus sur le 6play.
Ben c'est vrai qu'M6 a quand même d'anciennes séries qu'on aimerait bien revoir, enfin genre Sliders, Demain à la Une, les choses comme ça, qui pourraient, enfin ils ont un catalogue, enfin ils pourraient mettre toutes les séries de la trilogie pour le refoutre sur Salto, quoi.
Vous
Je sais pas.
avez regardé sur Salto déjà ou pas? Enfin, vous avez regardé quelque chose ou pas?
Ouais, j'ai lancé un Joséphine Ange Gardien.
Oh, waouh! Mais est-ce qu'à la fin de l'épisode, t'as eu l'épisode suivant?
Ah bah j'ai pas. Tu crois que j'étais jusqu'à la fin d'un épisode
Pourquoi
de
pas?
Joséphine Ange Gardien?
Pourquoi pas? Tu voues peut-être une addiction à Joséphine que tu nous as jamais révélée, tu vois. Mais, enfin, j'ai.
On t'aimerait pareil, hein, Tom. Hein. Si tu nous disais que t'aimais Joséphine, on t'aimerait pareil, Tom. Hein. Tu
Ouais,
sais,
c'est
on
ça.
t'accepte. Hein.
Ça, je suis pas sûre, mais bon. Ouais.
Mais en tout cas, j'ai vu qu'au niveau replay, pour ceux qui aiment les très vieilles séries, si on va dans la section Paris Première, il y a Amicalement Vôtre et Le Prisonnier. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est des choses que ça fait partie du patrimoine.
Moi, je ne vois pas l'intérêt, à partir du moment où tu as du replay, où tu as déjà le replay gratuit, je vois pas l'intérêt, honnêtement,
C'est pas celui de forcément Paris Première.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est
Ouais,
vrai.
mais bon, ouais, voilà, mais ouais, je sais pas. À voir.
Et vous avez essayé de mettre les épisodes en VO pour les séries qui ne sont pas françaises?
Mais il n'y a pas de sous-titrage VO déjà, donc ça me saoule. Voilà, bref. Oui, j'ai essayé, bah, littéralement, je regardais quoi là? Quiz. C'est la mini-série là sur le scandale de Qui veut gagner des millions.
Ah oui.
Donc j'ai mis en VO le son et il n'y a pas de sous-titre VO et il y avait juste de la VF en sous-titre.
Ouais.
Et donc ça m'a
Et
saoulé.
pour la série espagnole avec le mec de la Casa de Papel, j'ai perdu le nom, je
Ah
sais
oui,
plus.
El Camboroso. Non, je sais pas quoi là. Oui.
Et ben si tu veux le mettre en espagnol, il y a écrit que c'est de l'anglais.
Ah.
Ah super. Il y a
Voilà.
encore des petits trucs techniques à réparer,
Ouais.
quoi.
Bon, en tout cas, voilà, il y a un mois gratuit donc pour voir Seinfeld et Parks and Rec qui était quand même disponible nulle part.
Comment on peut trouver son bonheur en
Oui,
vrai
oui.
dans Salto. Après, je pense que c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu que le catalogue soit développé, qu'ils aient des trucs peut-être un peu plus exclusifs. Et ce qu'on espère, c'est surtout qu'ils aient bientôt des productions à eux, quoi.
Ouais. Ah, j'ai lu un truc, il disait pas avant mi-2021. Donc, je pense que ce sera pas pour maintenant. Hein.
Peut-être investir un peu d'argent dans des coproductions de loin, mais je crois que vraiment la partie production pour Salto n'a pas commencé.
Mais alors, ça va être quoi leur ligne édito alors s'ils produisent un truc parce que bon, ligne édito TF1, M6, France Télé, c'est pas la même quoi. Alors, ça va être un truc.
Bah là, c'est totalement autre chose. Enfin, il faut se dire que là, ils vont produire pour une plateforme. Enfin, j'espère
Bon, bah, Netflix peut encore dormir sur ses deux oreilles, quoi. C'est pas là, maintenant, qu'il va être détrôné en France, quoi. Ah, bah,
mais c'est ce qu'il disait, qu'ils n'essayaient pas de rentrer en compétition avec Netflix, mais proposaient juste une solution, enfin, une alternative à la télé, quoi.
Vaut mieux le dire, ouais, vaut mieux dire ça comme ça, quoi.
C'est ça, ouais.
Bon, on reste en France avec parce qu'on aime toujours analyser c'est les classements séries. Alors pour les 30 ans du télécable satellite, pardon, le magazine a demandé un panel leur série préférée. Et donc voici le classement des 10 premières. Alors, le podium, Game of Thrones, Casa de Papel, un gars, une fille. Ce qui est quand même surprenant pour un gars, une fille.
Bah carrément,
ça
moi j'ai
un peu mal. Hein.
Ah bah, mais même la Casa des Papel, hein, pardon, mais dans les meilleures séries, dans le numéro 2, la Casa des Papel.
Oui, mais c'est Télécap Satellite, enfin c'est pas Télérama.
Ça donne une idée des gens
ouais,
de la population.
De
ouais, mais tu vois que Game of Thrones quand même, c'est diffusé sur OCS, qui est pas non plus un public énorme, et je pense pas que c'est le public de Télécap Sat, donc c'est vraiment. Ouais. Une
non,
série
c'est un
qui a gagné cette première place bah, par autre chose qu'une diffusion, on va dire, grand public. Donc ça, c'est étonnant quand même. Et en plus, même malgré la dernière saison qui aurait pu faire descendre la série, bah, finalement, il y a encore des avis positifs sur la série et encore une belle aura quoi, pour être
Mais je
première.
pense que même si les gens ont été déçus, c'est qu'elle a marqué, quoi. Je pense
Ouais.
que ça a été un tel phénomène que quand tu repenses aux séries de ces dernières années, bah, Game of Thrones, elle te vient. Enfin, personnellement, même si elle fait pas du tout partie de mes séries préférées, je pense que dans les séries marquantes, clairement, elle est présente, quoi.
Non, mais pour moi, la présence de Game of Thrones ou de la Casa de Papel, ça me choque pas du tout. Enfin, limite, je m'attendais que à ça. Pour moi, ça reflète juste que bah, le public qui a voté, c'est un public aussi qui s'est initié aux séries grâce à ces deux mastodontes, parce que tout le monde en parlait, et que c'est le moment aussi où les séries sont rentrées vraiment dans tous les foyers comme étant un rendez-vous que tu reviens tous les ans. Là où nous, avant, on était, et le public de Télérama, je pense aussi, on était vraiment. On est sériephile, donc forcément, on est vachement plus curieux. On va aller voir un peu plus des choses plus exigeantes. Désolé pour Game of Thrones et la Casa de Papel, mais voilà. Et du coup, pour moi, c'est exactement ça. Et ça le prouve avec le reste du classement. Quand tu vois mince, un gars et une fille ou des séries comme ça, bah, c'est oui, ça reflète ce que la personne lambda regarde en tant que série.
Et surtout, Casa de Papel, c'est une série Netflix. C'est encore, à Game of Thrones, encore une autre série qui ne passe pas à la télé, quoi.
Oui,
c'est
mais
encore marquant
qu'il y a eu une telle.
La regarde, c'est vraiment la série de. Enfin, moi, j'ai des potes qui sont pas du tout sériephiles. La seule série qu'ils regardent, c'est Game of Thrones. Tu regardes, c'est tout le monde regarde. Même une personne qui n'est pas sériephile, c'est Game of Thrones qui regarde. Donc,
bah,
je suis totalement d'accord avec Maxime, c'est-à-dire que c'est pas un. Je pense pas que ce soit un public d'initiés et que effectivement, c'est un truc hyper hyper grand public ou quoi. Et ben la série qui fait le plus parler d'elle, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Mais c'est Game of Thrones. Donc effectivement, pour un public de, un public de non-initiés, effectivement, Game of Thrones, c'est la meilleure série. Je pense pas que ce soit la meilleure série. C'est la série qu'ils connaissent le plus, quoi, parce que tout le monde regarde. C'est pas la meilleure, c'est la série qui est la plus populaire, dont tout le monde parle. Mais je pense pas que
même pour la Casa des Papel ces dernières années. Hein.
Non, mais
je suis sûre qu'il y en a qui n'ont même pas vu ces deux séries, en fait, parce qu'ils ont peut-être vu deux épisodes et qui ont dit,
oui,
oh,
ils ont dit oui, c'est ma préférée, histoire d'eux.
Bah ouais, voilà, tu vois. Donc, bon, un gars, une fille, par contre, ouais, parce que
c'est surprenant.
Ça,
c'est étonnant quand même. C'est pas celle qui me serait venue en première des plus populaires, quoi.
C'est vrai.
C'est incroyable. ça explique quand même la popularité encore aujourd'hui de Jean Dujardin. Un peu moins d'Alexandra Lamy.
Ah, ouais. C'est lui. Quatrième, Desperate Housewives. Cinquième, Grey's Anatomy. Bah, là, on est carrément dans la...
Normal. Dans la popularité.
Dans le grand public ménager.
Ouais.
Ensuite, Kaamelott.
Bon.
Bah oui, bah il y a ses fans.
J'aurais pensé que ça aurait été plus Kaamelott que...
Un
fille.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ensuite, Friends. Bon, je connais pas.
Non, non plus.
Ensuite, Dr. House, qui est quand même aussi, bah, comme Desperate et Grey's Anatomy, c'est des séries ultra populaires qui ont quand même cartonné. Parce que House a eu des audiences...
ah oui.
Énorme
en
hein,
France.
Sur
ah ouais, ouais, bien sûr. Ouais,
c'était même supérieur aux US, à deux, je crois, à un moment donné. Ensuite, X-Files.
Bon, ah, voilà. Bien, ça, c'est quoi?
Malgré les deux dernières saisons qui ont été un flop sur M6, bah, voilà, les gens ont quand même toujours X-Files.
Je pense que les gens ne retiennent pas les deux dernières saisons.
C'est
je
vrai.
Pense.
Bah, ils ne l'ont pas vu, donc voilà.
Ta campagne de popularité marche, Tom. Les gens ont mis X-Files, tu vois.
NCIS et Prison Break, là aussi on est dans la série populaire.
Ah ouais, putain.
Mais là il y a une grosse, un gros fossé déjà entre NCIS et Prison Break.
Bon, tu sais, Prison Break ça a cartonné hein, dans la saison 1. Et NCIS, bah, ça marchotte, mais c'est pas non plus. C'est juste dans la longévité aussi. C'est des séries qui sont. Là, toutes les séries qu'on a citées là, c'est quand même des séries qui ont duré plus de 5 saisons faciles.
Et bah, tu vois, il y a toujours des gens qui sont là, quoi, et c'est multi-diffusé. Ouais. Enfin, je veux dire, là, c'est rediffusé tous les jours, du lundi au vendredi sur W9, le week-end aussi. Enfin, ouais. C'est des trucs qui marchent tout seuls, quoi.
Ouais. Bah, Urgence, alors ça, c'était étonnant quand même, même si bah, ça a marqué, mais c'est quand même l'une des séries les plus vieilles avec Friends et X-Files. Bah, ensuite, Julie Lescaut et Charmed. Bah là je sais pas, je sais pas juger là.
Ah oui, il y a du gros niveau, non, il y a du gros niveau hein. Ah ouais,
Charme,
les
si,
gars,
Charme, Charme ça a marqué, tu vois, ça a marqué, donc les gens
ouais,
ont dû se dire
ouais, qualité quoi, on voit quand même.
Non mais c'était plus qualité, accessible quoi. Et plus familial que bah, Buffy qui est plus loin dans le classement,
ouais,
par
ouais,
exemple
clairement.
Encore une fois, on est sur un, enfin si c'est un public qui a à peu près nos âges ou un peu au-dessus, t'as vécu avec Charme en fait pendant 8 ans
ouais. Oui,
enfin ça passait puis, tous les jours sur M6.
C'est un public TV CAPSAT, hein.
C'est ça.
Après, je ne sais pas si c'était une liste de 45 séries où il fallait piocher dedans ou si c'était vraiment cité comme ça de mémoire. Il n'y a quand même pas Ally McBeal, il n'y a pas Dawson, il y a quand même des... Lost est assez
ouais,
loin,
mais
bon, Lost, c'est normal parce que c'est une série quand même, on peut le dire, comme Buffy de niche. Hein, quand même,
c'est
que ça,
c'est... Et il y a Breaking Bad.
Breaking Bad, c'est assez loin. Ouais. Je crois que c'est 20e.
Ouais, attends, ouais, c'est ça.
Il y a Tchernobyl, quoi. Enfin, je suis désolée, il y a Tchernobyl. Mais oui, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Quoi ?
Mais il y a The Wire, quand même. Attention.
Il y a Peaky Blinders.
Non, mais ça c'est les trois...
Peaky Blinders. Enfin, moi, j'adore.
Les trois Télérama.
Oui.
Voilà. C'est ça, exactement.
C'est ça, ils ont été arrêtés à la sortie du métro, ils disaient, vous lisez Télécap Satellite ? Non, Télérama, bon, pas grave. Vous aimez quoi ? Bon, ben ok, on va mettre.
Ils ont posé aussi, genre, quelle est la série des années 90, des années 2000, des années 2010. Et par exemple, pendant les années 90, c'était Friends, Urgence et X-Files qui étaient les trois premiers, bon, ce qui est normal. Hein. Et House était devant Desperate pour les années 2000, alors que là, dans le classement général, Desperate est devant House. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais bon, après...
Et c'est quoi la troisième Grey's Anatomy ?
C'est alors si tu me laisses 2 secondes, je pense que je pourrais trouver le classement. Je
oh,
pensais que ça allait être acquis quand même.
De préparation, oh là là.
Mais oui, mais je pensais pas que vous alliez.
Je ne veux pas Dr. House, NCIS et Desperate Housewives.
Ah ouais.
D'accord. Heureusement qu'il y a acquis, hein. Oh, putain.
Enfin bon voilà, vous le trouverez donc dans le numéro de Télécapsat, bah, qui est sorti lundi dernier, donc à mon avis il sera plus chez vos, j'allais dire vos disquaires, mais non. Chez vos marchands de journaux, qui ne doivent plus exister, de toute façon, les marchands de journaux. Et donc, le numéro d'avant, ils avaient fait les animateurs préférés, et là, ils vont faire les émissions préférées.
D'accord.
Pour les 30 ans du Télécapsat.
Allez, ça va être Koh-Lanta, L'amour est dans le pré. on peut
chef,
lancer
le top chef.
Le Big Deal.
Ouais. Sacrée soirée.
Voilà. La soirée.
Club Dorothée. Le Club Dorothée, évidemment. Ouais. Bon, allez, parlons série. Est-ce qu'on sait faire de mieux, de toute façon, enfin, de moins pire. Alors, il y a eu quand même la saison 2, enfin, la saison 2, la nouvelle saison de l'anthologie Haunting of, donc de Mike Flanagan. Et il y avait Bly Manor, qui est sorti, donc. Qu'est-ce que ça donnait Marina? Après le succès de Hill House, est-ce que Bly Manor est aussi fort?
Pas du tout, mais absolument pas du tout. Moi, j'ai été très déçue. Et en plus, j'ai revu Hill House après par la suite pour être sûre que mon jugement n'était pas trop sévère. Et moi, Bly Manor, je l'ai trouvé très grossier dans le sens où c'était beaucoup moins subtil que Hill House. Tu voyais les trucs venir mais hyper en avance, enfin c'était et au final c'était hyper banal, enfin c'était premier jour du cours comment écrire une série d'horreur, bon ben voilà c'est ça, et ben il a fait ça Mike Flanagan. Et dans Hill House il y avait même une réal, il y avait des séances, des plans séquences que enfin tu vois des trucs absolument fou au niveau de la réal. Là j'ai pas trouvé non plus qu'il avait tu vois qu'il avait fait une réal plus poussé que ça. Donc voilà, non, j'ai été très déçue et je voulais aimer pourtant parce que j'aime bien le fait de retrouver des acteurs, j'aime bien le comment dire l'esprit de troupe, tu vois, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, je sais que là Maxime il est en train de crever à l'autre bout du micro, il est en train de dire mais ta gueule Marina, putain, c'était vachement bien.
Ça, on le dit
Voilà,
tous,
moi
hein, mais bon.
j'ai ouais grave non, moi j'ai pas du tout, j'ai vraiment et je l'ai trouvé très c'était très téléphoné. Tout ce que tu te dis, ben, il y a ça qui va se passer, ben, ça s'est passé, quoi. Donc j'ai été très déçue.
Maxime.
Mais c'est que pour le coup, enfin, pour moi, on ne l'a pas regardé de la même manière, parce que ils le disent dès le début, c'est pas une histoire de fantômes, c'est une histoire d'amour. Et moi, une fois que j'ai vu cette phrase, en fait, les fantômes, j'en avais rien à faire. Enfin, le côté horreur. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'horreur dans cette saison. Enfin, tu as deux jumpscares à tout péter. Et du coup, tu t'attaches aux personnages. Et en fait, enfin, moi, je les ai trouvés dingues, ces personnages. Je les ai trouvés tellement touchants. Enfin, ça se construit au fur et à mesure de la saison. Tu comprends où ils vont en venir. Mais j'ai trouvé ça dingue. Victoria Pedretti,
Ouais.
dedans, elle est ouf. Enfin,
Ah.
franchement, moi, je
Non,
trouve qu'elle
mais
fait un
les
travail.
gamins, attends, les gamins, ils parlent comme s'ils étaient au début du 19e siècle, on est dans les années 80. Enfin, la petite à 5 ans, elle parle comme une gamine de 12 ans. Enfin, j'ai trouvé
Mais
ça.
elle parle comme une gamine de 12 ans parce qu'elle est possédée par celle qui, enfin son ancienne nounou. C'est comme ça. C'est pour ça qu'elle parle de ça.
Non,
Et
mais de manière générale, même quand elle n'est pas possédée, tu vois.
mais parce qu'en fait, enfin moi je trouve que ça va totalement dans le personnage de la gamine. Enfin les gamins, je les trouve tellement complexes, c'est ouf. Pour la gamine, en fait, c'est qu'elle a toujours été abandonnée par les figures féminines. Enfin sa nounou, sa mère, qui sont toutes mortes. Et elle essaye de les faire revivre, en fait, d'où le lien avec les fantômes. Enfin, moi, au niveau gestion du traumatisme, du deuil, de la rupture, je trouve la série, mais dinguissime.
Ah, moi, j'ai mieux aimé la gestion du deuil dans Hill House pour le coup, tu vois, où j'ai trouvé que vraiment le deuil était traité de manière beaucoup plus subtile parce que chaque membre de la fratrie représentait une étape du deuil, tu vois, c'était beaucoup plus subtil, c'était beaucoup plus, c'était moins pré-mâché là, tu vois, vraiment pour le coup. Et pourtant, Hill House, c'était pas une truc d'horreur, c'était vraiment une histoire de famille aussi avant tout, tu vois, et moi, pour ça, tu vois, j'ai pas du tout. Moi, Bly Manor, moi, je suis pas fan, hein, tu vois, de trucs d'horreur et tout. Mais Hill House, j'avais adoré parce que justement, il y avait la truc de la famille et il avait dit que c'était une histoire de famille avant tout. Bly Manor, effectivement, il avait dit que c'était une histoire d'amour, mais moi, je suis pas du tout rentrée dedans. Je te dis, j'ai trouvé ça très téléphoné, très Olivia Jackson Cohen, là, comment il s'appelle dans la série? Merde, c'est quoi son
Peter
nom?
Quint.
Peter, voilà, tu vois, c'est le méchant
Ah, il est
unidimensionnel, enfin, tu
horrible. Je
vois.
déteste cet
Non,
acteur
mais
insupportable.
c'est unidimensionnel, hein. Il a une enfance terrible où Loulou, il se venge. Enfin, oh! Non, mais j'ai trouvé ça, mais c'était vraiment hyper téléphoné. Les personnages, pour moi, étaient très téléphonés. Et je parle pas d'horreur, c'est vraiment, pour moi, c'était. Oh, voilà. Alors que je trouvais que c'était beaucoup plus subtil. Mais
Bon,
voilà,
alors, qui
effectivement,
veut
c'est.
trancher? Il y a un partout, là.
Alors, je vais trancher. Bon, vous m'entendrez pas dire ça tous les jours, mais je suis plutôt du côté de Marina.
Oh!
Alors, je suis pas autant, enfin, je suis pas aussi tranchée que toi sur mon avis. J'ai moins bien aimé que Hill House, hein, clairement. je me suis fait chier en fait, moi. C'était plutôt ça, c'est-à-dire qu'en effet.
Et elle te dit non, mais je suis pas aussi bon. Clairement, je me suis fait chier. Putain, j'adore. Mais bon, bref.
J'adore. Non, mais j'avais envie de frissonner, moi. Si je regardais ce genre de série, c'était aussi pour frissonner. En effet, ça fait pas du tout peur. Alors que Hill House, il y avait une ambiance particulière qui faisait que voilà. Mais si on doit pas la comparer, je vais dire, voilà, moi, ce qui m'a dérangé, c'était plutôt le rythme que j'ai trouvé beaucoup trop lent. Ça prenait beaucoup trop, c'était beaucoup trop long à se mettre en place. Mais par contre, j'ai bien aimé, je crois, les deux derniers épisodes où je suis beaucoup plus rentrée dedans et où j'ai. Voilà, le problème, c'est qu'il a, voilà, il a fallu attendre l'épisode 8 pour que je rentre vraiment dedans, quoi. Et donc, pour moi, c'est le gros défaut de la série, quoi.
Ben, moi, je vais rappuyer les côtés négatifs parce que j'ai pas du tout aimé.
J'ai trouvé... pas du tout, du tout.
Je suis vraiment seul contre le monde.
Bah, j'ai regardé et franchement, c'est... je me suis dit, mais.
Jusqu'au bout, t'as quand... regardé.
Oui, j'ai tout regardé. Chaque fois, je me dis, bon, ah, ok, ça... les deux premiers, je dis, ok, ça démarre, c'est normal. Troisième, quatrième, je sais, bon, où est-ce qu'ils veulent en venir ?
Ça démarre encore.
ça redémarre de nouveau.
Autant Hill House, les défauts d'Hill House se retrouvent aussi dans celle-ci. Mais les défauts de Hill House, je les excuse un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, tu avais la même histoire pour chaque personnage. Donc tu disais, bon, ça n'avance pas. Chaque partie, chaque personnage raconte sa vision, enfin, son moment. Et en fait, l'histoire n'avançait pas à cause de ça. Et donc, tu disais, oui, ok, ça va tout se regrouper dans l'épisode 6, qui était fabuleux, et ensuite, l'histoire va pouvoir avancer. Là, j'ai rien trouvé. C'est-à-dire que ça n'avançait jamais. Je dis, qu'est-ce qu'ils veulent raconter? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter? En plus, les personnages, moi, je n'ai pas trouvé très attachant. Aucun. Victoria Pedretti sort par les yeux. J'en peux plus de sa tête de malheureuse, là, qu'elle fait à chaque fois. Autant quand elle est souriante.
Pauvre.
C'est rare qu'il dise ça d'une belle fille, je tiens à le dire.
Ouais, non, mais elle est super lumineuse et tout quand elle sourit, mais dès qu'elle tire la gueule, mais c'est toujours la même gueule, quoi. Et la pauvre, son rôle n'est pas non plus... Enfin, elle fait pas grand-chose, quoi. Oliver Jackson Cohen, là, que j'avais pas aimé dans la saison 1, là, c'est pareil, avec son vieil accent, là, je sais pas s'il le force, mais je ne peux pas.
Mais Tinia Miller, elle est... ouf dans
ouais.
cette saison.
Alors je m'étais dit, mais où est-ce que je l'avais vue? Donc c'est celle de Years and Years,
ouais.
Et, qui était déjà très bien dans Years and Years, et là c'est vrai qu'elle est très très bien aussi. Mais là son personnage c'est pareil, tu dis où est-ce qu'ils veulent en venir?
Ah moi l'épisode qui est centré sur elle, franchement j'étais pendu à ses lèvres, elle parle pendant les trois quarts de l'épisode. Ouais.
Alors justement c'est très... ça parle beaucoup trop en fait, ça parle beaucoup trop pour pas grand chose, ça explique peut-être trop.
Descriptif, quoi.
Ouais, c'est que ça parle,
coup,
ça
c'est
parle,
ce que
ça
disait,
parle.
C'est le rythme lent, en fait. C'est parce que c'est très descriptif et c'est moins dans l'action.
Non, mais autant ça peut être lent. Hill House c'était lent, mais tu vois, il y avait des choses fortes. Et là, les seules choses fortes, c'était à la fin de chaque épisode. Ouais. C'est juste à la fin. Et après, quand il se passe quelque chose, hop, on te resserre le passé des personnages, donc tu te contrefous. Parce que ça t'apporte rien. Alors ça, je ne peux plus, parce que ça fait... c'est genre les réflexes de American Horror Story, c'est-à-dire de donner de la consistance au personnage par des flashbacks. Et ça, je ne peux plus. C'était vraiment d'une American Horror Story, donc il y avait une sorte de non-cohérence à leur propre univers. J'ai l'impression que ça piochait un peu à droite à gauche pour sortir des choses, et ça ne menait à rien. Et après l'épisode tout en noir et blanc, j'ai dit, mais bon Dieu, mais on s'en fout, quoi, c'est... Ça explique peut-être la genèse d'un fantôme, mais en 10 minutes, ça peut être fait, quoi. En 10 minutes, ça peut être fait. Puis ensuite, le tout dernier, ça va dans tout autre chose. Tu dis, ah, enfin, ça bouge. Mais en fait, tu dis, ok, donc ça se termine là-dessus. Et en fait, tout ça, c'est une histoire d'amour. Ok, mais alors, non, je suis désolé, non.
Non, mais il y avait l'écriture de certains épisodes qui étaient... qui jonglait entre flashback et présent, et en fait je trouve qu'il nous perdait plus qu'autre chose limite. C'était mal fait, quoi.
L'idée des souvenirs et tout, quand c'est dans les souvenirs, ça je comprends l'idée était très bien, mais ouais, l'exécution peine un petit peu, quoi.
C'est ça, et l'exécution fait que, enfin, moi je ne suis pas rentrée dedans quand il faisait ça, quoi.
Je pense que c'est aussi t'as l'impression de mettre ça encore dans un manoir. Enfin, tu dis, finalement, c'était pas si hanté que ça, tu vois. Tout ce qui se passe, c'est pas plus que ça, quoi. Voilà.
Le casting des enfants était excellent.
Ouais.
Franchement, les enfants.
Eh ben moi, j'ai pas trouvé, je te jure, j'ai trouvé qu'ils surjouaient tout le long. Quand je vois les gamins de Hill House, les deux qui jouaient les jumeaux, ils jouaient extrêmement bien, les petits jumeaux, là. Mon Dieu, le petit, justement, Éléonore et comment il s'appelait, son frère ? Ben, je m'en rappelle. Oliver, ben justement, les deux, oh, ils étaient à croquer, ils jouaient super bien et tout. Là, je te jure, vraiment, quand ils étaient possédés, on le voyait. Enfin, bon, ouais. J'ai pas du tout.
Moi, je crois qu'ils étaient flippants, les enfants, justement. Donc, je crois que c'était assez réussi là-dessus.
Perfectly splendid. Mais est sous-utilisé, Carla Gugino, c'est dommage.
Non, mais ça, les trucs... Alors, je vais vous raconter une histoire. Oh là là. Ok, d'accord. On en est là, quoi. C'est le mec, il y recommence en mode « Je vais vous raconter une histoire », d'accord.
Bon, allez, on va arrêter là, sinon Maxime va être énervé.
Ouais, il va être...
Je suis résigné.
Bon, bah tiens, Maxime, parle-nous de La Flamme, la série française que tout le monde attendait.
Ça divise, hein. Franchement, autour de moi, il y en a pas mal qui s'y mettent et ça divise beaucoup. Moi, j'adore. Je trouve que c'est trop. Enfin, j'ai vu Burning Love, dont c'est l'adaptation, et je l'ai revu même aujourd'hui. Et je trouve que ça transpose exactement ce que c'était, tout en utilisant ces actrices d'une manière mais tellement drôle. Enfin, il y a des noms qui remontent souvent. Leïla Bekti, elle est géniale dedans. Même Doria Tillier, je l'aime beaucoup. Il y a peut-être quelques petites erreurs de casting, notamment celle qui reprend le rôle de la vieille prétendante de Marc, où j'ai trouvé que c'était moins fun, moins... ça prenait moins. Mais au-delà de ça, là, sa recherche d'amour, alors qu'il est complètement con, moi, ça me fait rire.
Moi, je suis un peu plus mitigée, même si dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai trouvé juste que bon, c'est du Jonathan Cohen, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu lourd, quoi. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il est sur le même rythme du début à la fin, quoi. Jusqu'au dernier épisode, c'est vraiment dans la lourdeur. Donc, il y a des moments très drôles, genre la janguille et tout. Enfin,
Ah oui.
Il y a quelques trucs où je me suis dit, franchement, c'est hyper bien trouvé. Et puis, à d'autres moments, je me disais, putain, ah ouais. Il s'enfonce et il continue.
pour être tout à fait honnête, je trouve que la série, enfin, pour le moment, je suis à l'épisode 6. Et là, l'épisode 5 et 6, ils sont un peu plus faibles parce qu'ils s'essayent plus à autre chose, à aller ailleurs que dans la parodie de télé-réalité. Et du coup, ça fonctionne moins. Mais il y a des gags de parfois que je trouve mais dingues. Quand ils sont dans la maternité et que Leïla Bekti répond à comment tu veux appeler l'enfant et qu'elle dit Marc. Mais je vous jure, mais je hurlais de rire et ça m'arrive jamais. Mais j'étais tellement mort de rire.
Moi, je trouve, du coup, je suis un peu d'accord avec Elodie dans le sens où c'est effectivement Jonathan Cohen qui pêche un peu dans l'histoire.
Ah merde, parce que là... c'est le personnage principal, quoi.
Oui, mais bon, après, les autres sont...
C'est son truc, ça, soit il fait tout, quoi. Il est scénariste, il réalise et il joue, quoi. Donc, c'est ça, c'est
un peu dommage. Surtout c'était du coup Ken Marino qui jouait dans la version américaine et je trouve qu'il a un capital sympathie. Enfin, il faisait moins, le bâtard que le personnage de Jonathan, que Jonathan quand même, ce que je trouve un peu dommage. Il fait trop idiot à chaque fois, il joue l'idiot et ça, je trouve ça,
Alors, pour le coup, je peux être assez d'accord parce qu'en l'ayant revu, du coup, c'est vrai, c'est deux humours un peu différents. Mais dans Burning Love, par rapport à La Flamme, je trouve que les prétendantes, enfin les actrices en tout cas, jouent vachement moins. Et
c'était plus dans le cliché,
Il y a des moments où ça passe pas, en fait, c'est pas drôle. Alors que dans La Flamme, elles vont vraiment le jouer. Par exemple, je pense à Adèle Exarchopoulos.
Ah, mais franchement, je l'aime pas. C'est génial. Elle est dans ce rôle, mais incroyable.
D'habitude, je ne l'aime pas. Dans tous les films, je sais pas, il y a un truc, c'est comme les assez doux, quoi.
Bah, faut qu'elle se teste, quoi.
Pareil.
Ouais, c'est ça. Et là, la meuf arrive, elle joue un personnage de femme à qui on a greffé un cœur de singe. Et elle, à chaque fois qu'on lui pose une question ou qu'elle est émue, elle dit « Ouh !» Et ce gag, il est pendant tous les 6 épisodes, tu l'entends, tu le vois pas arriver, il revient à chaque fois et à chaque fois, je suis mort de rire.
J'avoue, c'est le seul truc là, qui traîne en longueur et qui arrive à faire...
Ben, c'est pour ça qu'ils ont bien fait de se débarrasser de Florence Foresti assez rapidement, parce que les blagues sur les aveugles, ça pouvait vite devenir très, très...
Rien que ça, c'est-à-dire que toute la scène où il a son rendez-vous avec elle et que elle gagne le bowling, puis elle gagne ça, et en fait au final elle gagne 36 trucs à la suite, enfin voilà, c'était tout match, on avait compris au bout de 3 ou 4 trucs quoi.
Oui, parfois il s'étend un petit peu trop, c'est vrai.
Ça, est-ce que au-delà de l'adaptation donc de Burning Love, est-ce que ça passe 5 ans de retard quand même, voire 10 au niveau du ton?
Non.
Franchement, enfin... non.
Non, ça pourrait arriver n'importe quand. Après, ce qui est bien, c'est qu'il parodie une télé-réalité, mais sans tomber dans les clichés de la télé-réalité, moi, je trouve. C'est-à-dire que tu n'as aucune des candidates qui va être une bimbo, qui est là juste pour passer à la télé, qui est plastifiée, refaite de partout. Il n'y a aucun personnage comme ça, quoi. Ouais, elles ont toutes une spécificité hyper originale que tu ne verras jamais dans la télé-réalité, justement. Mais justement, c'est ça qui est assez drôle.
D'ailleurs, le running gag sur le personnage de Anna Girardot, j'avoue que je comprends pas trop en fait. Marc ne l'a pas aimé dès le départ, mais
tu sais pas pourquoi.
Je comprends pas en fait.
Ben voilà, c'est ça en fait. Il se rend pas compte à quel point la meuf elle check toutes les cases de la femme parfaite, et c'est ça aussi qui fait le running gag. Le mec, il est complètement con. Enfin, vraiment, c'est pour ça que c'est avec lui, je pense, que ça passe ou ça casse, avec Jonathan Cohen, parce que son personnage est débile. Là où celui Ken Marino dans Burning Love était naïf,
oui,
là, lui,
exactement.
Il est complètement débile. Mais parfois, ça donne des trucs. Charlotte, est-ce que je suis capable d'aimer encore? Est-ce que je suis capable d'aimer? Enfin, ce running gag où à la fin il finit.
Oui.
Est-ce? Enfin, je sais pas. C'est con.
Non, ça, non. C'est tout mal.
Ah, mais moi,
c'est
ce
moment en confession qui me saoule un peu plus, je t'avoue.
Voilà. Mais alors, je voudrais quand même dire quand même que le casting est quand même fou.
Hein, ah oui. Ah oui, oui, incroyable.
On réussit à avoir des actrices et acteurs, parce que tous les guests qu'il y a entre Pierre Niney et François Civil,
c'est les potes de Cohen. Hein, c'est
chouette quoi, de dire qu'il y a une série française où tu as autant de célébrités à la seconde quoi. C'est le plus gros problème, c'était les agendas des
actrices. Ah bah ouais, tu m'étonnes.
Hein. Parce que moi, quand j'ai vu le casting, je m'attendais à ce qu'ils fassent un autre découpage que Burning Love, où Burning Love, ils sont allés choisir des actrices peut-être moins connues, enfin des têtes qu'on connaît mais qu'on suit moins, alors que là, c'est vraiment des grosses têtes. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, en fait, ils vont nous faire du one-to-one à chaque fois, et ça va pas être drôle, quoi.
Non, ça aurait été horrible, ça.
Et donc c'est sur Canal, on reste dans les séries françaises, justement avec des vedettes, 10%, dernière saison, saison 4. Qui veut en parler, en bien ou en mal?
Je pense que la saison 4, est loin d'être la plus réussie des saisons de 10%, mais elle met un peu de temps à démarrer, on va dire. Il y a un nouveau personnage qui arrive, celui de Anne-Marie Vin, qui, je trouve, met du piquant à la série, qui permet à la série de se renouveler même. Voilà, je trouve que ça fait du bien. Après, jusqu'à la fin, voilà, ils ont fait une vraie fin. Donc, il n'y aura pas, c'est pas annoncé officiellement, mais normalement, il n'y aura pas de saison 5 de 10%. Et moi, je suis contente de la fin qu'ils ont trouvée et qu'on puisse dire au revoir aux personnages. Ou peut-être qu'on aura des spin-offs, je sais pas. Je milite pour un spin-off avec Lorca Lamy sur le personnage de Noémie, parce que c'est juste le meilleur personnage de la série, on va pas se mentir.
Je trouve même qu'elle a réussi à supplanter Andrea, alors que les deux premières saisons, je trouvais vraiment que c'était Andrea, enfin Camille Cotin, moi que j'adore, hein, tu vois. Ouais, mais je trouve qu'à un moment, il y a eu une espèce de balance, enfin tu vois, de twist, et Lorca Lamy, là maintenant, tu la vois de partout, et, et elle est hyper pétillante. Enfin moi, j'aime beaucoup cette actrice, Andrea.
La révélation.
Mais pour moi...
Y a un épisode sans qu'elle ait une scène iconique, je trouve.
Pour moi, je vais être sévère parce que j'aime bien la série habituellement, mais c'est le seul bon élément de cette saison 4, en fait. Il y a que ces scènes qui sont intéressantes, il n'y a que son évolution qui est intéressante. Le reste, je trouve ça tellement téléphoné, je trouve ça tellement prévisible. Enfin, dès que j'ai vu Anne-Marie Vin, dès le début du deuxième épisode...
Marie-Vin.
Mais dès que je l'ai vu arriver, je me suis dit, ok, ils vont nous faire une histoire de fusion à la fin. Enfin, je sais pas. Même le parcours des acteurs qu'ils suivent, ils sont plus intéressants du tout. Ils n'arrivent plus à écrire pour leurs acteurs. Enfin, l'épisode sur Charlotte Gainsbourg, j'étais devant. En plus, Le truc
C'est le pire
tout con.
épisode pour un personnage.
Le truc tout con, c'est la première série que je regarde avec mon copain qui n'aime pas les séries. On se met à regarder ça et on voit l'épisode où, qui se termine avec un quiproquo sur une jambe pétée après avoir marché sur une peau de banane. Enfin,
ah, je sais
pas, ils ont pas l'habitude de cet absurde-là. À chaque fois qu'ils vont dans l'absurde, ça reste quand même crédible. Et là, mais j'étais devant le truc de Charlotte Gainsbourg, je fais, mais c'est pas drôle, c'est mal écrit. Enfin, il n'y a pas de running gag sur elle, il n'y a pas vraiment de critique sur elle. Je sais pas, je trouve qu'il manque vachement de second degré. Enfin, par exemple, le truc sur, sur Franck Dubosc, où ils essayent de faire le truc à Ciao Pantin, où l'acteur a des problèmes de conscience dans son jeune lien. J'ai trouvé ça, enfin, survolé, pas intéressant, trop facile, parce qu'en plus, Franck Dubosc, enfin, je sais pas, même enfin, celui sur José Garcia, où je trouvais que c'était touchant par moments. Ça éclipse tout le reste et c'est plus intéressant. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal
voilà, à. En fait, moi, pour moi, les guests qui sont dans les épisodes n'ont jamais été les personnages principaux. Donc, pour moi, c'est des intrigues secondaires, tu vois.
Mais parfois, parfois, je trouvais qu'ils arrivaient à avoir une histoire qui aidait vachement les personnages des agents. Et là, il n'y a pas ça, en fait. Enfin,
un petit peu sur certains épisodes, mais bah, moi, par contre, tu vois, par exemple, celui avec Franck Dubosc, je suis pas d'accord avec toi. J'ai bien aimé justement qu'il parle de ça, tu vois, des acteurs Télérama, des acteurs pas Télérama, et pareil ouais. Avec Mimi Mati, tu vois,
oui,
de
ça, d'accord.
Compter les acteurs populaires.
Enfin, c'était emballé, pesé en 10 secondes, quoi.
Ouais, mais moi, je suis d'accord avec Maxime pour le coup. Moi, je trouve que, enfin, les deux premières saisons étaient exceptionnelles et depuis, je pense qu'ils s'accrochent aux branches et qu'ils s'auto caricature, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent de refaire ce qui a fait leur succès, mais moins bien, je trouve.
Mais après, Fanny Herrero, elle est partie pour cette dernière saison aussi, hein.
Ouais. Et la 3, elle était déjà pas exceptionnelle, quoi, tu vois. Donc, je pense que vraiment, elle est allée au-delà de ce que c'est. Elle est très bien parce que les personnages sont attachants, il y a un bon rythme et tout, tu vois. Mais, vraiment, la 3, moi, je me rappelle avec l'épisode de Jean Dujardin, je dis, attends, ils ont Jean Dujardin comme truc, ils font ça. Voilà. Mmh. Donc, moi, vraiment, pour le coup, je trouve que les deux premières étaient exceptionnelles et depuis une saison et enfin deux saisons là voilà je trouve qu'ils s'accrochent aux branches et ils arrivent pas à retrouver le niveau qu'ils ont eu jadis quoi d'antan.
Il y a un truc aussi que je trouve décevant, c'est autant dans les premières saisons, les arcs des agents là, ils étaient vraiment intéressants et même leurs amitiés entre eux c'était sympa à suivre. Là franchement rien ne va, je suis désolée, mais avec l'histoire entre Sophia et Gabriel franchement c'est complètement pété. Même Camille et Sophia, on peut se dire, tiens, allez, elles vivent ensemble, enfin, elles sont en coloc, allez, on va avoir des scènes un peu intéressantes, mais ça sert strictement à rien.
Ouais, tu vois.
Donc, en plus, on perd de leur Camille, enfin. Non, j'ai un trou de mémoire sur mon prénom. Noémie. Enfin, Noémie avec.
Hervé.
On voit des scènes un peu peut-être After Work, mais ça ne remplace pas, quoi. Enfin, du coup. Même individuellement et en tant qu'ensemble, ils ont complètement tout perdu. Bon, et je ne parle pas du tout de l'histoire d'Andrea et de Colette, là, ça vomit, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Ouais, donc c'est hyper décevant sur tous les points, c'est, voilà.
Ouais, mais je trouve que c'est intéressant d'aborder l'homoparentalité, le fait de jongler entre sa carrière et son rôle de mère.
Non, mais c'est un cliché, je suis désolée. Enfin, genre, ouais, c'est intéressant d'en parler, mais en fait, à aucun moment, on en parle vraiment. C'est ça le truc. Tu vois trois scènes où allez, elle s'engueule parce que ah mon Dieu, André est trop occupé. Non, quoi. Enfin bref.
D'accord. Bon. Est-ce qu'on passe rapidement sur Emily in Paris? On reste en France, mais vu par les Américains.
Alors on va te la faire rapidement. Bon, ben c'est nul.
Je tiens à préciser que j'ai regardé cette série alors que je prends la 13. Voilà. Donc automatiquement quand j'ai vu ça j'ai fait ok c'est un conte de fées, c'est Cendrillon en fait, c'est pas Émilie de Paris.
Je voudrais vivre comme Émilie, hein, y a aucun souci.
Tous les Parisiens veulent vivre comme elle, c'est pas la question, il y a pas que toi je pense.
Non, mais
est-ce que les New-Yorkais vivent comme Carrie Bradshaw en vrai?
Ouais, ouais. Voilà,
c'est ça, exactement.
Non enfin, mais par contre
cette série pour ce qu'elle est, franchement c'est juste fantasme et du divertissement quoi.
Mais c'est surtout que moi, j'ai su de suite ce que j'allais voir quand la scène d'ouverture, c'est elle qui arrive à Paris. qui prend un taxi. Le taxi l'emmène à l'Arc de Triomphe,
oui,
à la Tour Eiffel, ensuite à la Madeleine, ensuite à Concorde, pour l'emmener dans le cinquième. Ok, c'est une blague de Parisien, mais pour l'emmener dans le cinquième, je me suis dit, ma petite, tu t'es fait couillonner. Hein. Le taxi, c'est pas bon.
Bah, elle a l'air plein d'études, hein, parce que quand même, elle va manger tous les matins et tous les soirs au resto. Ouais,
Oui, mais elle habite dans une chambre de bonne.
C'est un appart pour Rave, ouais, c'est ça.
Là, enfin, sa chambre de bonne de 40 mètres carrés,
vraiment. Ouais, voilà.
Bon, bah, moi, pour rire, alors, donc c'est bien.
Ça en deux jours.
Ah, ben moi, ça m'a même pas fait rire. Je me suis dit, mais quelle débilité!
Ah, ouais, mais c'était drôle.
Ah, non,
ah,
moi,
c'était
non,
drôle.
Il y a deux, trois moments où j'ai rigolé. Par exemple, avec le frère de la fille.
Ah, oui. Ça, c'était drôle.
Ah, mais c'est comment il s'appelle? C'est Mötley. Merde. Il y a quand même des acteurs français qui sont connus dedans.
Avec mes collègues, on s'est dit putain, c'est con qu'on n'ait pas attendu pour voir cette série tous ensemble, parce qu'on aurait pu faire un bingo à shot. À chaque cliché parisien, tu prends un shot, mais tu finis la soirée
laisse tomber,
bourrée.
tu fais un quart d'heure, t'es en coma éthylique. Mais laisse, si tu joues avec ta santé, avec ta vie, Max.
Alors, est-ce qu'il y a des deux chevaux et des mecs en béret avec du pain sous le bras?
Alors,
ou
oui, il y a les bérets et le pain.
Ah, magnifique, parfait. Là.
Et les Français ne faisaient pas la guerre en 40, ils faisaient l'amour.
Ah,
ça,
bon.
C'est pas beau.
Ah, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils parlent des différences. Par exemple, bah, justement, avec le frère, quand il dit « Ah, mais moi, le collège aux États-Unis, ça veut pas dire la même chose qu'en France, quoi. » Ou quand elle réserve au resto et que c'est pas la bonne date parce qu'aux États-Unis, ils inversent les mois et le jour, quoi.
Ça me désespère, mais vraiment, honnêtement, je me dis qu'on fasse ça. Ça, on a une idée comme ça, ça soit financé, tourné, et mis en ligne sur Netflix. Je me dis, bah punaise, les mecs, ils ont trop d'argent, quoi.
Non, mais par contre, il y a un bon épisode, mais vraiment un bon épisode. C'est le troisième, je crois, où elle parle de Me Too et de comment elle peut refuser telle ou telle chose de la part d'un homme. Et c'est simple, c'est fait, c'est cash, mais je trouvais que par contre, pour le coup, c'était efficace.
Et donc, oui. C'est sûr, Netflix, oui.
Je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, il y a juste des banalités.
Enfin, oui, mais c'est des banalités qui ne sont jamais vraiment dites, et je pense que pour un certain public, ça peut être bien de l'entendre aussi.
C'est bien, les banalités. Ouais. Rapidement, Next, à qui est-ce qu'il faut regarder ou pas?
Les deux premiers, franchement, j'ai trouvé ça intéressant, mais effectivement, c'est un peu... ça peut rendre parano. Enfin, on l'est déjà, de toute façon. Mais après, avec tout ce qui est intelligence artificielle et Alexa, etc., franchement, je ne sais pas si vous craignez déjà parfois de mentionner certains sujets devant votre téléphone, à côté de votre téléphone, mais je pense que ça ne peut qu'aggraver cette crainte-là.
Écoute, moi, le premier m'avait intéressé, le deuxième m'ennuyait, donc on verra le troisième.
Ah, t'as pas... Alors, pourtant, je trouvais que c'était...
Non, le deuxième, c'était beaucoup de blabla. Non, c'était un truc...
Non, ça a bien avancé. Là, ils savent que l'AI est dehors, ils savent... Et aussi, j'aime bien l'actrice. Je la connais pas. J'ai pas l'impression de la connaître, mais je la trouve
Elle te connaît pas non plus, de toute façon.
Super. Non, mais vous rigolez à ça, quoi. Ça vole pas
trop. J'ai pas l'impression de la connaître. Bah, c'est pas grave, à qui? Moi, j'ai pas croisé Lily James dans Paris. C'est bizarre. Maxime, Queen's Gambit, qu'est-ce que c'est? Rapidement.
C'est l'histoire de Elisabeth, je sais plus comment, qui est une pro aux échecs, sauf qu'elle a quand même pas mal de petits problèmes à côté, notamment d'alcoolisme. Et en fait, on la voit de quand elle est petite jusqu'à... Là, j'ai pas vu le dernier épisode encore, mais jusqu'à ses plus grands tournois. Et c'est super beau. Enfin, à regarder, c'est vraiment magnifique. Il y a des scènes où... elle imagine les parties d'échecs dans sa tête. Enfin, à chaque fois que les parties d'échecs sont filmées, t'es happé alors que t'y comprends strictement rien. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, les échecs, c'est pas mon truc. Et au-delà de ça, les acteurs sont vraiment très bons. Ouais, le scénario est pas mal. Il y a des petites longueurs par moment. Mais c'est vraiment super bien. Anna Taylor...
Joy.
Et géniale dans le rôle.
Elle est toujours incroyable.
Mais moi, je ne l'attendais pas à ce niveau. Et là, vraiment, je la trouve dingue. Et mince, il y a sa garde-robe.
Voilà, ah oui, incroyable. On dirait qu'elle s'habille Chanel tous les jours.
Elle me fascine. Sa garde-robe, je ne comprends pas pourquoi. Je veux ce col roulé.
Qui est meilleure que celle d'Emily in Paris, je tiens à le préciser.
Oui,
Et donc c'est sur Netflix.
Ouais.
Qui a vu La Révolution?
Le premier, j'ai vu le premier épisode.
Alors ça donne quoi?
C'était immonde.
Voilà.
Voilà.
Ben merci Elodie.
Bah, merci Tom, merci à tout le monde.
Merci à qui?
Bah, de rien, Tom.
Merci Marina.
Bah, de rien, Tom.
Merci Maxime.
À votre service.
Et merci la France. On se retrouve
Ciao,
Serial Causeur sur toutes les plateformes de podcast, sur tous les réseaux sociaux. À bientôt. Bonne série à tous et on se retrouve très vite.